Oh, la parole pour le monde, oui, la parole de Dieu. Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole de Dieu.
Le soleil, dans sa course, commence à jeter des ombres allongées sur les douces collines et vallons de cette pittoresque campagne. Des vaches, paisiblement couchées et ruminant d'une façon rêvasseur dans les pâtures tranquilles de cette région de Northamptonshire, sont soudainement perturbées par le son de pas venant du chemin. Quelques-unes d'entre elles se lèvent en protestation et regardent l'étrange personnage qui ose briser si rudement leur indolence de fin d'après-midi. Mais il ne leur cause aucun danger, car elles l'ont vu souvent passer par ici. Il est le cordonnier du village. D'ailleurs, plus tôt cette journée-là, dans la matinée, il est passé par là, sur son chemin pour Northampton. Il y portait des paires de chaussures, l'équivalent de 2 semaines de travail, aux contracteurs du gouvernement. Et maintenant le voilà, retournant à Moulton, avec le rouleau de cuir, qui le tiendra occupé pour une autre semaine ou deux. Le troupeau le fixe de leur regard, et ils font bien, car le monde entier d'aujourd'hui en ferait autant s'il le pouvait, car celui-ci, c'est William Carey, le héros d'un nouvel ordre, le prophète du nouvel ère, l'ingénieur d'un nouveau monde. Les vaches le regardent, mais il ne leur retourne pas le regard. Ses yeux sont fixés au loin, au-delà des mers. Il est un rêveur, mais il est un rêveur qui ne pourrait pas être plus sérieux. Moins de 20 ans avant cette fin d'après-midi-là, dans un châtaignier, pas loin de ce même chemin, il a découvert un nid d'oiseau qu'il voulait avoir à tout prix. Il se met à grimper, et il est tombé. Il grimpe encore, et tombe encore. Il se met une troisième fois à grimper l'arbre, et, à sa troisième chute, il casse sa jambe. Quelques semaines plus tard, sa jambe étant encore bandée, sa mère le laissa pour 1 heure ou 2, lui donna instruction de faire bien attention en son absence. Quand elle est retournée, il est assis dans sa chaise, tout excité, ses joues rougies, avec le nid d'oiseau sur ses genoux. « Hourra, maman! J'ai finalement réussi! Le voici, regarde! Tu ne vas pas me dire que tu as grimpé cet arbre encore? Je ne pouvais pas m'empêcher, maman, je ne pouvais vraiment pas. Si je commence une chose, il faut que je la finisse. » Sur les monuments érigés en l'honneur de William Carey, sur les bustes et sur les plaques sur les piédestaux, sur les pages titres de nombreuses biographies et sous les portraits qu'on a fait de lui, j'ai vu nombre de citations de grandes paroles venant de sa bouche, mais je n'ai jamais vu celle-ci. Pourtant, la parole la plus caractéristique de William Carey est celle qu'il a dite à sa mère ce jour-là. « Si je commence une chose, il faut que je la finisse. » Si vous regardez de près, vous remarquerez que cette phrase est étampée sur sa face, alors que, le regard au loin, il chemine sur le sentier. Suivons-le, et nous verrons qu'il est en train de commencer des choses prodigieuses. Et comptez-y, il va, coûte que coûte, les voir jusqu'à la fin. Ce n'est pas une maison très meublée, ce petit demeure où il reste, car, quoiqu'il est pasteur, directeur d'école, et cordonnier, les 3 occupations ne lui pourvoient qu'à peu près 36 livres par année. Regardant autour, je ne peux voir que quelques outils de cordonnier. 1 livre ou 2, incluant une Bible, une copie du livre du capitaine Cook, Voyage, et une grammaire néerlandaise. Autrement, nous voyons aussi une grosse carte étrange sur le mur. Il vaut la peine de regarder cette carte de près. Cette carte faite en cuir et en papier brun, une carte faite de sa propre main. « Regardez, dis-je, cette carte, car c'était un reflet de l'âme de Carey. » En montant le chemin, ne regardant ni à droite ni à gauche, il pensait au monde entier. Il est un homme à tout faire, mais un homme à une pensée. « Peut-être, se dit-il, peut-être que Dieu veut vraiment dire ce qu'il dit, quand il dit « le monde ». Le monde! Le monde! Dieu a tant aimé le monde, aller partout le monde. Les royaumes de ce monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. C'est toujours le monde, le monde, le monde. Cette pensée hanta la pensée de Carey jour et nuit. La carte du monde était accrochée sur le mur de sa chambre, mais c'était accroché sur le mur de sa chambre parce que c'était déjà accroché à son cœur. Ça occupait ses pensées. Il en rêvait la nuit. Il prêchait sur le sujet. Il était étonné que, quand il exposait le fardeau de son âme à ses confrères dans le ministère, ou quand il prêchait sur le sujet à sa petite congrégation, ils écoutaient tous avec un intérêt respectueux et attentionné, mais ils n'en faisaient rien. Finalement, le 31 mai 1792, Carey a prêché son grand sermon, le sermon qui a donné naissance au mouvement missionnaire moderne, le sermon qui a fait l'histoire. C'était à Nottingham. « Allonge tes cordages, comme disait le texte. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ésaïe 54. « Allonge tes cordages, dit le texte. Affermis tes pieux, dit le texte. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu, dit le prédicateur. Tentez de grandes choses pour Dieu, dit le prédicateur. » Si tout le peuple avait élevé leur voix et pleuré, dit Dr. Ryland, comme les enfants d'Israël ont fait à Bochim, je ne me serais pas demandé quant au résultat. Cela aurait juste été ce qui semble bien proportionné à la cause. C'est de cette manière claire que M. Carey a prouvé la criminalité de notre léthargie dans la cause de Dieu. Mais le peuple n'a pas pleuré. Ils n'ont même pas attendu. À la fin, ils se sont levés pour partir comme à leur habitude. Quand Carey, descendant de la chair, a vu les gens tranquillement en train de partir, il a saisi la main d'André Fuller et la serra dans l'agonie de sa détresse. « N'allons-nous pas faire quelque chose ?» demanda-t-il. « Oh Fuller, rappelle-les, rappelle-les ! Nous n'osons pas nous séparer sans faire quelque chose !» De cette supplication passionnée, une société missionnaire a été formée. Et William Carey s'est offert pour être le premier missionnaire de la société.
Oh, la parole pour le monde, oui, pour ce monde perdu. Oh, qui paiera le plus grand des coûts pour le Seigneur Jésus?
Si je commence une chose, il faut que je la termine. Il faut que je la voie jusqu'à la fin, a-t-il dit comme gamin d'école. Nous n'osons pas nous séparer sans faire quelque chose. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Attendez-vous à de grandes choses pour Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Je ne peux jamais penser à William Carey sans penser à Jane Conquest. Dans le petit village côtier, pauvre Jeanne, veillait tard dans la nuit au chevet de son enfant mourant. Alors, soudainement, une lumière au loin se fit voir à travers le treillis et la chambre se vit empourprée. C'était un bateau en flammes et personne, sauf elle, pour le remarquer. Laissant son enfant mourant aux soins du Père Céleste, elle fit son chemin à travers la neige jusqu'à la vieille église en haut de la colline. Elle se faufila par la fenêtre étroite et monta du beffroi l'escalier. Elle saisit la corde, cette corde, le seul espoir des mariniers. Et le vent violent de son côté, de toutes ses forces, elle se débat. Et la cloche se mit à sonner, sonner, conviant le village plus bas. Réveillant les pêcheurs endormis, sa tâche d'avertir ne cessa que quand une centaine de braves pieds se mirent en branle combat. À la plage, vite, dans les bateaux, bravons les vagues effrénées, jusqu'à ce qu'on ait sauvé chacun des naufragés. Sur l'âme sensible de William Carey, la vision bouleversante d'un monde en péril, et il ne put trouver aucun sommeil, aucun repos pour ses paupières, jusqu'à ce que toute l'Église soit debout et luttant pour le salut des millions qui périssaient. Cela a été si bien dit que quand, vers la fin du 18e siècle, cela a plu Dieu de réveiller hors de sa somnolence son Église liturgique. Il se mit à sonner, du beffroi des âges, une alarme assourdissante et insistante. Et dans cette heure de réveil, la main qu'on trouva à la corde de la cloche était la main de William Carey.
La parole pour le monde, oui, pour le monde entier. Pour ce, il faut d'ici jusque-là la croire et l'observer.
Maintenant, la vie de William Carey est à la fois ce qui ressort et ce qui illustre un principe faramineux. Ce principe ne pourrait pas être énoncé mieux que par le prophète aux lèvres brûlants de qui William Carey a pris son texte. « Tes yeux, dit Ésaïe, tes yeux verront le roi dans sa beauté, et ils contempleront le pays lointain. » Ésaïe 33, 17. La vision royale va de pair avec la vision continentale. La révélation du Seigneur mène à la révélation d'une horizon sans limite. Qu'est-ce qui s'est passé un jour bien mémorable sur le chemin de Damas? C'était simplement ceci. Saul de Tarse a vu le roi dans sa beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé après, en termes de suite naturelle et inévitable? Il vint dans sa vie une passion pour les horizons au loin. Toutes les limites des préjudices juifs et les chaînes écrasantes de la superstition des pharisiens sont tombées comme les écailles qui sont tombées de ses yeux. Le monde était à ses pieds. Quasiment d'une seule main, en solitaire, prenant sa vie entre ses mains, il s'est lancé à l'assaut des grands centres de la civilisation, les capitales de fiers empires, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune difficulté ne peut le secouer, aucun danger ne peut le nuire dans son avancement splendide. Il va de mer en mer, d'île en île, de continent en continent. La condition affamée de la terre est dans son esprit. Il n'y a pas de côte ou de colonie où il refuse d'aller. Il ressent sa dette envers les Grecs et les barbares, aux savants et aux ignorants, aux esclaves comme aux personnes libres. Il grimpe les montagnes, traverse les fleuves, traverse les continents, endure les coups, supporte les emprisonnements, souffre les naufrages, brigue les insultes et fait fi de sa vie nombre de fois pour la cause de la passion de son cœur à porter le message d'espoir à chaque recoin de cette terre. Une histoire de danger, de difficultés, d'héroïsme et d'aventures plus excitantes ne pourrait pas être écrite. Sur le chemin de Damas, Paul a vu le roi dans sa beauté. Et il a passé le reste de sa vie en poursuivant les horizons lointains qui se sont déferlés devant lui. La vision du roi lui a ouvert les yeux à la vision des continents. « On doit faire quelque chose » cria-t-il. « Allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Le roi, le roi. Les continents, les continents. Ayant contemplé ces choses, nos yeux sont mieux capables d'apprécier la signification des objets dans la chambre du cordonnier. Là, enfin, il s'assoit. La Bible de laquelle il tire son texte, ouverte devant lui, et une carte du monde faite à la main, accrochée au mur. Dans la Bible, il a vu le roi dans sa beauté. Sur la carte, l'horizon lointain a accroché son regard. Pour lui, les deux sont inséparables. Et touché par la vision du Seigneur d'une part et par la vision de l'horizon lointain de l'autre, il quitte tout et a fait l'histoire. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Faites quelque chose. Faites quelque chose.
Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole de Dieu?
Juste avant la mort de Carey, Alexandre Duff est arrivé en Inde. Il était un jeune homme de 24 ans, des montagnes écossaises, grand et beau, avec l'œil vif et la voix frémissante. Avant de se mettre à l'œuvre, il est allé voir l'homme qui avait changé la face de cette terre. Il a atteint le collège une journée très chaude de juillet. Là, il trouva un vieux petit homme jauni, dans un manteau blanc, qui, de peine et de misère, s'approcha pour l'accueillir, et, de ses mains ouvertes, le bénir solennellement. Un amour grandit immédiatement dans le cœur des deux hommes pour l'un l'autre. Carey, se tenant sur le bord de la tombe, se réjouissait de voir un beau jeune Écossais, bien formé, dédier sa vie à l'évangélisation et à l'émancipation des Indes. Duff sentit que la bénédiction du vieil homme se collerait à son œuvre comme une fragrance à travers les grands jours à venir. Pas longtemps après, Carey était sur son lit de mort, et à sa grande joie, Duff est venu le voir. Le jeune Écossais partagea au vétéran missionnaire son admiration et son amour. Dans un chuchotement à peine audible, le mourant implore son visiteur de prier avec lui. Après avoir acquiescé et fait la chose, il fait ses adieux au fragile vieillard, puis se retourne pour partir. À la porte, il pense avoir entendu son nom et se retourne pour remarquer que M. Carey lui fait signe de revenir.
« Monsieur Duff, »
dit le mourant, d'une intensité à lui redonner vigueur dans la voix.
« Monsieur Duff, vous avez parlé de Dr. Carey. Dr. Carey, Dr. Carey. Quand je serai parti, ne dites rien à propos du Dr. Carey. Parlez uniquement du sauveur de Dr. Carey. »
Ai-je dit que quand notre petit fabricant de chaussures a surpris le troupeau sur ce chemin du Northamptonshire, il ne pensait qu'au monde, au monde, au monde? J'avais tort. Il pensait surtout du sauveur, du sauveur, du sauveur, du sauveur du monde. Et en même temps, j'avais raison, car les deux visions ne sont qu'une vision. Les deux pensées ne sont qu'une pensée. Le roi, le roi, le roi! Les continents, les continents, les continents, le sauveur, le sauveur, le sauveur, le monde, le monde, le monde. Jeune, Carey a saisi la vision du roi dans sa beauté. Et comme suite inévitable, il a passé le reste de ses jours à la conquête des régions au loin.
Oh, la parole pour le monde, oui, la parole de Dieu. Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole de Dieu. Oh, la parole pour le monde, oui, pour ce monde perdu. Oh, qui paiera le plus grand des coûts pour le Seigneur Jésus. Oh, la parole pour le monde, oui, pour le monde entier. Pour ce, il faut d'ici jusque-là la croire et l'observer.
Cette introduction à la vie de William Carey, que je viens de vous partager, elle nous vient d'un texte écrit en 1920 par un certain F.W. Boreham. Mais qui est William Carey? Quels sont les détails de la vie de cet homme qui doit terminer ce qu'il commence? Cet homme qui a vu le roi dans sa beauté et a vu le monde entier dans son besoin. Né le 17 août 1761, dans le village de Pollersbury, proche de Northampton en Angleterre, William Carey est l'aîné de 5 enfants. Tisserand de métier, son père est devenu le clerc de paroisse et maître d'école. William devient un apprenti cordonnier dans son adolescence. Quoique pauvre, son éducation ne laisse rien à désirer. À l'âge de 30 ans, il peut lire couramment la Bible en latin, grec, hébreu, néerlandais, français et anglais. Il était un menteur invétéré. Un jour, son maître l'attrape, en train d'essayer de profiter de lui. Et par la providence de Dieu, le maître s'était servi d'un autre apprenti que Carey méprisait fortement, parce que celui-ci était un dissident, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie de l'église d'État, l'église anglicane, mais il allait plutôt dans une église baptiste. À la longue, Carey voit bien que celui-ci ne veut pas vraiment son mal et le laisse lui parler de l'Évangile. Finalement, à l'âge de 18 ans, après une lutte spirituelle intense, il renonce enfin à son arrogance et à son zèle religieux pour se prouver meilleur que les dissidents. Il se voit totalement coupable et perdu. Le cœur brisé, il se confie au Sauveur crucifié pour le pardon de ses péchés et pour son salut. À 20 ans, toujours jeune dans la foi, il se marie, plus pour des considérations humaines et financières que spirituelles. La jeune femme qu'il prend pour épouse ne développera jamais la tendresse de cœur et l'intérêt profond que Carey allait développer très rapidement envers son Sauveur et son Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le plus heureux des mariages, mais Carey cherche tant bien que mal à aimer fidèlement son épouse, tout en se donnant pleinement à son Seigneur. Vers le même temps, il commence à assister à une petite assemblée de non-conformistes à Hackleton. Deux ans après, le 5 octobre 1783, pleinement convaincu par les Écritures de son devoir de professer publiquement dans les eaux du baptême de sa foi en Christ, il se fait baptiser par nul autre que Dr. Ryland. Le Dr. Ryland avait écrit dans son journal pour cette journée-là, « Aujourd'hui, j'ai baptisé un pauvre jeune cordonnier. » Retenons ce nom, celui du Dr. Ryland. On l'a déjà vu et on le retrouvera encore un peu plus loin. Près de deux ans après, il se joint à l'église baptiste à Olney, celle qu'il avait tant méprisée dans sa jeunesse. Il y devient très impliqué. Il commence à prêcher assez tôt, même avant son baptême. À sa première prédication, sa mère vient l'entendre prêcher et sent qu'il deviendra un grand prédicateur. Son père, trop gêné que d'être vu dans une église baptiste, l'entend de dehors à une réunion subséquente. Il aime ce qu'il entend. Quand il se joint à l'église baptiste à Olney, le pasteur veut qu'il se donne en entier au ministère, ce que Carey fait à 25 ans, en 1786, en acceptant le pastorat de l'église à Leicester. Son salaire pastoral est minime, alors il occupe aussi le poste de directeur de la petite école du village, et finalement il reprend aussi son métier de cordonnier pour subvenir aux besoins de la famille. C'est là qu'il fait sa fameuse carte du monde et développe un énorme fardeau pour les âmes perdues à travers le monde entier qui n'avaient jamais encore entendu l'Évangile. Dans le livre du révérend André Fuller, intitulé « L'Évangile digne d'une pleine acceptation », il y trouve ceci. Si c'est le devoir de tous les hommes de croire quand l'Évangile leur est présenté, cela doit être que c'est le devoir de tous ceux qui reçoivent l'Évangile de faire tout pour le faire universellement connu. Ceci scelle ses convictions sur le besoin et la responsabilité missionnaire de chaque chrétien. Il lit aussi, la lecture, combien bénéfique qu'elle est. Il lit aussi, dis-je, le livre de Jonathan Edwards sur la vie et l'œuvre missionnaire de David Brainerd, ce chrétien des colonies britanniques en Amérique du Nord, qui a tout sacrifié pour aller porter l'Évangile et la parole de Dieu aux tribus amérindiennes. Il est touché par le fait que David Brainerd n'a pas laissé sa faible santé l'empêcher de brûler de tous ses feux pour le Seigneur, pour atteindre les perdus qu'il n'avait jamais encore entendus. Brainerd, d'ailleurs, meurt de la tuberculose à l'âge de 29 ans. William Carey est peut-être appelé le père des missions modernes, et certainement, pour diverses raisons, le titre est bien approprié, mais il n'était pas le premier missionnaire. David Brainerd n'était pas le premier non plus. Dieu est fidèle, et dans chaque génération, il y en avait qui ont été fidèles à répondre à la grande commission. Mais pour l'instant, dans la génération de William Carey, c'est du méconnu.
Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole de Dieu?
Avec ses convictions missionnaires grandissantes, dans un temps où les chrétiens sont généralement endormis à ce sujet, il commence à prier pour le salut des païens au loin. À la fin d'une rencontre pastorale, un des pasteurs plus aînés, le Dr. Ryland, demande, comme la coutume était, pour des questions théologiques à aborder à la prochaine réunion pastorale. Cette demande est adressée spécifiquement aux deux plus jeunes pasteurs présents, à Pasteur Carey et à un autre qui l'accompagnait. À la longue, devant l'insistance de donner une réponse, William Carey soumit cette question-ci. Si le commandement donné aux apôtres de faire des disciples de toutes les nations n'était pas aussi la responsabilité de tous les ministres qui suivraient jusqu'à la fin du monde, voyons que la promesse qui accompagnait le commandement était pour toute cette même période. C'est la première fois qu'il ouvre son cœur et en dévoile le pesant fardeau en public. Il sait bien que ce n'est pas selon le sentiment qui règne à ce moment-là. De fait, en entendant une telle question, le Dr. Ryland doit en faire beaucoup pour se recomposer. Il finit par dire, « Jeune homme, assieds-toi. Quand Dieu se plaira à convertir les païens, il le fera sans ton aide, ni le mien. » Carey ne put se laisser ni convaincre, ni être découragé. La parole de Dieu était clairement contre une telle idée. Et bien au contraire, enseignait la responsabilité de chaque disciple de faire tout en son pouvoir, d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que Christ a prescrit à ses premiers disciples. Non, définitivement, il ne se laissera pas être découragé.
Affrontons le vent contraire, plein de foi, d'élan, résistons à l'adversaire, face à l'ouragan, quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout, nous ne perdons pas courage, Christ est avec nous, quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout, nous ne perdons pas courage, Christ est avec nous.
Il se met à écrire sur le sujet et prépare un pamphlet intitulé « Un examen de la question de l'obligation aux chrétiens de faire des efforts dans la conversion des païens ». Mais il n'a pas les fonds pour publier ce pamphlet. Le temps continue de passer. En 1791, à une rencontre pastorale, c'est le pasteur Fuller, cette fois-ci, qui a l'occasion de prêcher. Il prêche sur l'influence pernicieuse du délai dans les affaires de religion. L'audience commence à être touchée par la question et Carey encourage une action immédiate en vue de commencer à atteindre les millions de païens au loin. Quelqu'un dit, si ce n'était pas des conseils de Sutcliffe de prendre le temps de considérer plus ces choses avant d'agir, la ferveur de Carey aurait eu pour résultat l'établissement immédiat d'une société missionnaire. Mais au moins, il en ressort de cette rencontre pastorale la demande des pasteurs à Carey de publier ce qu'il avait écrit sur le sujet. Une autre année de délai, une autre année où le fardeau de Carey et quelques autres pasteurs prend des proportions inégalées. Vient le fameux 31 mai 1792, lors de la rencontre pastorale à Nottingham, où Carey prêche d'Ésaïe 54, 2 et 3, ces deux points bien connus. « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. » Le Dr. Ryland a beau avoir changé d'idée et reconnu la criminalité de leur léthargie, comme nous avons vu, l'inactivité de cette audience pousse désespérément Carey à prendre la main de Fuller et crier « Rappelle-les, rappelle-les !» Saisis enfin, le groupe de pasteurs se met à l'action et prend la résolution qu'à la prochaine rencontre, un plan soit préparé dans le but d'établir une société pour la propagation de l'Évangile parmi les païens.
Ô Dieu, réveille-nous. Ô Dieu, réveille-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous, réveille-nous.
La publication du pamphlet de Carey devient enfin réalité cet été-là. Puis, le 2 octobre 1792, 12 pasteurs se réunissent pour former une société missionnaire baptiste. William Carey est choisi pour être leur premier missionnaire. Enfin, quelque chose de concret est en branle. Ignorons quelques points de balbutiement de cette première entreprise missionnaire formelle, comme par exemple le fait que le modèle biblique est qu'une église locale et non une société missionnaire soit l'autorité derrière l'envoi d'un missionnaire pour commencer d'autres églises au loin. C'est assez pour l'instant de se réjouir que la roue de l'effort missionnaire a recommencé à tourner parmi les églises soucieuses d'obéir à la parole de Dieu. D'autres plus tard en raffineraient le comment et les méthodes pour suivre plus fidèlement le modèle biblique. Les membres de l'église de Pasteur Carey sont, on peut comprendre, pas chauds à l'idée de laisser leur pasteur partir. Mais, comme a dit un de leurs membres, je cite, « Nous avons prié pour l'avancement du royaume de Dieu parmi les païens, et maintenant Dieu nous demande de faire le premier sacrifice pour le voir accomplir. » Fin de citation. Bien dit, les missions sont une affaire de sacrifice pour tous impliqués. Mais où aller? Où lancer leur œuvre de départ? Vient la rencontre d'un médecin chrétien anglais, le Dr. John Thomas. En 1783, l'année où Carey s'était fait baptiser, le Dr. Thomas était allé en Inde pour travailler comme médecin pour la East India Company. Témoignant des ténèbres dans lesquelles étaient les masses hindoues, tous dans la vallée de la mort, il avait commencé à œuvrer comme il put. D'abord comme médecin, ensuite après un temps en Angleterre, où il s'est fait baptiser et formé comme prédicateur, comme ministre de l'Évangile pour évangéliser et essayer de traduire la Bible en bengali. Et maintenant, soutenu principalement par deux philanthropes chrétiens, c'est là qu'on le retrouve à revenir en Angleterre pour chercher plus de fonds et chercher un compagnon missionnaire avec lequel travailler. Rencontrant William Carey, il le convie à y aller avec lui pour atteindre les millions de perdus dans ce grand pays. Le 10 janvier 1793, dans le bureau d'Andrew Fuller, plusieurs des pasteurs formant la société missionnaire entendent le rapport et la présentation des besoins en Inde par Dr. Thomas. M. Fuller finit par dire « Il y a une mine d'or en Inde, mais il semble qu'elle est aussi profonde que le centre de la Terre. Qui va y descendre pour l'explorer ?» Vient cette réponse de la part de Carey. « Je m'y aventurerai, mais, s'adressant aux membres du comité, rappelez-vous que vous devez tenir les cordes. » Il fut décidé donc que le Seigneur dirigeait William Carey à partir avec le Dr. John Thomas pour les Indes. Quand vint le temps de partir, ce n'est que ces deux-là, car Mme Carey refuse d'aller avec lui et les enfants vont rester avec elle. Ceci attriste beaucoup, bien sûr, M. Carey, qui lui communique ceci sur son chemin pour la côte. Si j'avais le monde entier, je le donnerais volontiers pour t'avoir, toi et les chers enfants, avec moi. Mais le sens de devoir est tellement fort pour annuler toute autre considération. Je ne peux retourner sans devenir coupable dans mon âme. Dis aux enfants que je les aime tendrement et que je prie pour eux constamment. Sois assuré de mon amour le plus affectueux. Il doit obéir au Seigneur. Et avec cette détermination, il se confie dans la direction de son bon berger.
Jésus, mon sauveur, me guide tout le long de mon chemin. J'avance sous son égide, lui qui me tient dans sa main. Divin repos, paix céleste, en lui j'ai tranquillité, car je sais, quoi qu'il arrive, Jésus est mon bon berger. Car je sais, quoi qu'il arrive, Jésus est mon bon berger.
À la côte, les deux hommes vont pour embarquer un bateau de la East India Company. Mais le capitaine du bateau s'était fait menacer à cause d'eux et ne leur laisse pas embarquer. Mais Dieu est en train d'agir dans sa providence et ce délai donne le temps à Mme Carey de changer d'idée. Accompagnée de sa sœur et bien sûr de leurs 5 enfants, elle rejoint son mari. Et finalement, tous ensemble, ils embarquent un navire danois cette fois-ci, le 13 juin 1793. William Carey a 32 ans quand il arrive à Calcutta quelques mois après, le 1er novembre.
Jésus, mon Sauveur, me guide depuis qu'il m'a racheté. Mon âme est encre solide, sécure en ton sang versé. Quoique mes pas sont si faibles, mon cœur est renouvelé. Du rocher sort bien l'eau vive, jusque dans l'éternité. Du rocher sort bien l'eau vive, jusque dans l'éternité.
Leur argent missionnaire vite écoulé. Les temps du début sont très durs. L'étude de la langue, l'ajustement, la maladie, et non le moindre, le grand sentiment de solitude. Face à celle-ci, il est consolé par Ésaïe 51, où il est rappelé qu'Abraham était seul quand il fut appelé. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé quand il était seul, et je l'ai béni et multiplié. Ésaïe 51, 2. Vient l'offre du poste de superviseur d'une usine d'indigo à Manbati. Il s'assure que ce poste ne l'empêcherait pas d'être principalement occupé à son œuvre missionnaire d'atteindre les natifs avec l'Évangile. Le poste lui assurerait les ressources et le temps pour les besoins de la famille et du ministère, en plus que de lui donner une audience chez les natifs qui étaient employés dans l'usine. Il est familier avec le modèle missionnaire d'autosuffisance que pratiquaient les Moraviens et il désire suivre ce modèle. Je ne mentionne pas ce modèle pour l'encourager particulièrement, car le modèle biblique que des églises se mettent derrière des missionnaires pour leur pourvoir le soutien nécessaire d'être à temps plein est bien établi dans les Écritures. Mais nous pouvons bien voir que dans ses débuts, malgré certaines faiblesses, l'œuvre missionnaire est au moins sur ses départs formels. Carey accepte le poste et y reste plus de 5 ans. Il œuvre aussi dans les villages alentours et traduit en entier le Nouveau Testament en un dialecte du bengali. Ce n'est pas sans difficulté ni sans épreuve, la maladie, la perte d'un de leurs enfants, et non le moindre, la difficulté de s'ajuster de la part de son épouse et son état déclinant. Après 5 ans en Inde, elle est affligée d'insanité jusqu'au jour de sa mort, en décembre 1807. Mais à travers les difficultés, l'œuvre fait son bout de chemin. La première personne qu'il conduit au Seigneur est une personne d'origine portugaise. Cet homme devient un fidèle compagnon de service dans le ministère et reste fidèle jusqu'à sa mort en 1829. Il lègue à ce moment-là tous ses biens à la mission. Malgré le fait qu'elle n'avait pu envoyer qu'une petite somme à travers les années, la société missionnaire devient un peu soucieuse du poste que Carey a accepté d'occuper, l'avertissant de ne pas perdre sa vigueur missionnaire pour quelconque poursuite marchande. Mais Carey semble soulager leurs soucis de par son explication que son œuvre missionnaire n'en souffre pas et que la plupart du revenu de son poste est utilisé pour l'avancement de la cause de Christ, incluant celui de traduire et publier les copies de la parole de Dieu. Il veut que la société utilise les fonds pour qu'une nouvelle œuvre commence ailleurs, maintenant que le Seigneur lui a pourvu les ressources nécessaires pour vivre. En 1799, à cause d'une inondation majeure, l'usine doit fermer ses portes. Pendant ce temps, 2 hommes, M. Marshman et M. Ward, arrivent aux Indes pour se joindre à Carey. mais les autorités britanniques ne leur accordent pas la permission de débarquer dans leur territoire. Par contre, la petite colonie danoise à Serimpoort, à quelques kilomètres au nord de Calcutta, les accueille et leur donne protection. Ils invitent William Carey et sa famille de s'y installer aussi et de continuer à partir de là leur œuvre missionnaire, ce que les Carey font en 1800. Ils établissent des écoles et prêchent l'Évangile. Avant la fin de leur première année dans cette nouvelle place, le 28 décembre 1800, Carey a la joie enfin de baptiser leur premier converti hindou, Krishna Pal. Il avait été un patient du docteur Thomas que Dieu vint prendre en 1801. Krishna Pal grandit dans sa foi et devient très utile à l'œuvre. Il reste fidèle au Seigneur jusqu'à sa mort en 1822. Carey baptise en même temps ce jour-là un de ses enfants, Félix, qui s'était converti. Krishna Pal avait écrit ce poème 7 ans après sa conversion. « Ô toi, mon âme, n'oublie jamais l'ami qui a souffert tout pour toi, que toute idole soit oubliée, mais lui, ô mon âme, n'oublie pas. » En 1801, une première copie du Nouveau Testament en bengali, imprimée par M. Ward, est présentée au gouverneur de la colonie danoise, qui est bien content du labeur missionnaire qui se faisait. William Carey et ses compagnons d'œuvre et leurs familles respectives choisissent une vie familiale de groupe où tout est partagé et mis en commun. Les fonds nécessaires pour vivre sont gardés au minimum et la plupart des fonds vont à faire avancer la mission et commencer d'autres missions au-delà de leur région. Une journée typique pour M. William Carey nous est décrite par ce qui suit. Écrit pour s'excuser auprès d'un ami pour avoir tardé à répondre à sa lettre, Carey montre comment il mène à bien plusieurs tâches à la fois. Il écrit « Je me suis levé aujourd'hui à 6 heures. J'ai lu un chapitre de la Bible en hébreu. J'ai ensuite prié jusqu'à 7 heures. Puis j'ai assisté au culte domestique en bengali avec les serviteurs. En attendant qu'on m'apporte le thé, j'ai lu un peu en persan avec un munchi qui m'attendait. J'ai lu aussi, avant le petit déjeuner, un court passage des Écritures en hindoustani. Ensuite, après le petit déjeuner, je me suis installé avec un pundit qui m'attendait pour continuer la traduction du sanskrit en Rema Yuma. Nous avons travaillé jusqu'à 10 heures. Je suis alors allé à l'université où j'ai donné des cours jusqu'à 14 heures. De retour à la maison, j'ai lu les épreuves de la traduction de Jérémie en bengali que je venais de finir à l'heure du déjeuner. Après le repas, je me suis mis à traduire, avec l'aide du pundit qui dirige l'université, la plus grande partie du chapitre 8 de Matthieu en sanskrit. Cela m'a occupé jusqu'à 18 heures. Ensuite, je me suis installé avec un pundit de Telinga pour traduire du sanskrit dans sa propre langue. À 19 heures, je me suis mis à méditer le message d'un sermon que je devais prêcher en anglais à 19h30. Près de 40 personnes assistaient au culte et parmi elles, un juge du Sudair Dewani Dalut. Après le culte, le juge a fait une offrande de 500 roupies pour la construction d'un nouveau lieu de culte. Tous ceux qui assistèrent au culte partirent à 21 heures. Je m'assis alors pour traduire le chapitre 11 d'Ézéchiel en bengali. J'en terminais à 23 heures et maintenant je suis en train de t'écrire. Ensuite, je terminerai mes activités de la journée par la prière. Il n'y a pas de journée où je puisse disposer de davantage de temps, mais le programme varie. Les années passent. Après le décès de sa première épouse, William Carey se remarie et celle qu'il prend pour femme, Charlotte Rumor, lui devient une très grande aide dans le ministère jusqu'en 1820. Où Dieu vint prendre cette chère femme de Dieu. Après ça, Carey se remariera une troisième et dernière fois avant que le Seigneur vienne le rechercher. À travers les années, ils font face à de l'opposition venant de diverses sources et de diverses manières, et parfois avec grande intensité. Pour un ministère qui cherchait à faire avancer fidèlement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'était à s'y attendre, comme nous dit 1 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. mais il ne se laisse pas décourager, même dans les plus noirs moments.
Si la barque est secouée par de durs assauts, il paraît dans la mêlée, marchant sur les eaux. Quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout, nous ne perdons pas. Christ est avec nous. Quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout. Nous ne perdons pas courage. Christ est avec nous.
Un de ses plus noirs moments est quand, un soir, un feu se déclare dans l'imprimerie et détruit tout. Plusieurs bâtiments, les caractères, le papier en stock, les épreuves d'imprimerie et tout le travail de traduction de la Bible en sanskrit et d'autres langues partent en fumée. 10 000 livres était le montant des pertes. Et Dieu seul sait le nombre d'heures investies dans ces choses. Comment réagirait-il?
Il secourt notre détresse, entend notre cri. Sa puissance avec tendresse nous met à l'abri. Quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout. Nous ne perdons pas. Christ est avec nous. Quand la tempête fait rage, tenons ferme contre tout. Nous ne perdons pas courage. Christ est avec nous.
Ils se sont simplement remis au travail. Ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient du métal et, avec leurs poinçons et leurs matrices qu'ils avaient encore, ils se sont refait les caractères d'imprimerie. À peine 2 mois plus tard, l'imprimerie était de nouveau en fonction. Et après un autre 2 mois, les sommes pour reconstruire tous les bâtiments brûlés étaient rentrées. Et non le moindre, seulement 7 mois après le désastre, la traduction de la Bible en sanskrit avait été refaite au complet. Le dimanche, après le feu, Carey avait prêché sur psaume 46:11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Ça pourrait être très bien traduit aussi par ceci. « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Carey avait présenté ce jour-là 2 points à sa congrégation à partir de ce texte. 1. Dieu a un droit souverain de disposer de nous comme il le veut. 2. Nous devrions être soumis et tranquilles par rapport à tout ce que Dieu fait avec nous et à nous.
Divin repos, paix céleste, en lui j'ai tranquillité, car je sais, quoi qu'il arrive, Jésus est mon bon berger. Car je sais, quoi qu'il arrive, Jésus est mon bon berger.
On entrevoit clairement son esprit tranquille et soumis dans une lettre à un ami, où il remarquait que, je cite, « de parcourir la même route une deuxième fois, aussi pénible que cela puisse être, est d'habitude fait avec plus de facilité et plus de certitude que la première fois. » Une telle attitude lui permettait de travailler aussi fort que possible, selon ce que Dieu permettait, à répandre la parole de Dieu à ceux qui ne l'avaient jamais encore reçue. Cette épreuve démontrait aussi clairement qu'il aimait Dieu, le souverain, même plus que le travail qu'il faisait pour lui. Non, son travail pour le Seigneur n'était pas devenu une idole en soi-même. Dieu pouvait le lui enlever. C'était Dieu lui-même, et non pas ce qu'il faisait pour Dieu, qu'il aimait de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Voyant sa grande érudition linguistique, les autorités britanniques lui demandent d'enseigner les langues dans leur collège de Calcutta. Le missionnaire persécuté devient ainsi à Calcutta le professeur de sanskrit, de bengali et de maratha, mais à une condition, que son œuvre missionnaire soit reconnue et autorisée dans les vastes territoires gouvernés par les Britanniques. Ceci ouvre de nombreuses portes pour l'Évangile, dans Calcutta et même au-delà, car cela a donné en même temps que la Société missionnaire baptiste les envoyait des renforts. Avec plus d'ouvriers, l'œuvre prenait de l'expansion. William était très travaillant, et le nombre d'accomplissements dans sa vie était vertigineux. Avec son intérêt de longue date dans la botanie et son érudition dans la matière, il créa la Société indienne d'agriculture et d'horticulture. Il était membre de bien d'autres sociétés civiles en Inde. Il commença un collège à Serimpore. Il s'opposait aussi farouchement à plusieurs pratiques abominables, entre autres le sati, où une veuve était brûlée vive sur le bûcher funéraire du corps de son mari défunt. Quand vint enfin l'ordre du gouvernement de rendre illégale une telle pratique, Carey fut demandé de la traduire en sanskrit, ce qu'il fit sans tarder, en remerciant Dieu pour cette réponse à ses prières de longue date à ce sujet. Il avait joint à ses prières tous ses efforts pour faire cesser cette terrible pratique. Il réussit à faire passer aussi d'autres telles législations pour favoriser et protéger le peuple indien. De son œuvre missionnaire, il avait aidé à établir une trentaine de stations missionnaires à travers les Indes, où une cinquantaine de pasteurs œuvraient, la moitié étant des nationaux convertis et formés pour le ministère. Il a vu, après un début très lent, un nombre d'hindous se convertir à Jésus-Christ. Il a traduit la Bible en bengali et en sanskrit, et des larges portions des Écritures en une quarantaine d'autres langues et dialectes. Son compagnon de service, M. Marshman, pour sa part, avait œuvré à traduire et à imprimer la Bible en chinois. M. Ward, l'imprimeur, produit des Bibles en grande quantité et bien d'autres littératures. Pour sa part, le plus haut appel possible était celui d'être missionnaire au service du roi des rois. Quand son fils aîné, Félix, après avoir commencé à aider dans le ministère, en fin de compte, s'intéressa plus à accepter une haute position offerte par les autorités britanniques, son père dit « Mon fils a commencé comme ministre de Christ, mais tristement, il s'est abaissé à n'être qu'un simple ambassadeur. » Ce que Félix n'a pas poursuivi, ses trois autres fils l'ont fait. Ils ont pris la relève et, par la grâce de Dieu, ont suivi leur père dans le ministère. Quand elle pouvait à peine marcher, William Carey travaillait dans son lit à réviser sa traduction de la Bible en bengali, chose qu'il espérait tant pouvoir finir avant sa mort. « Si je commence une chose, il faut que je la finisse. » Il fallait qu'il le finisse, oui, mais si seulement Dieu permettait. Il se fiait à la douce direction de son berger fidèle, avec le regard sur son retour jusqu'à la fin.
Jésus, mon sauveur, me guide tout le long dans son amour, et j'attends d'un cœur avide le bonheur de son retour. et enfin dans sa présence, mon chant sera à jamais. Gloire à toi, berger fidèle, tout le long tu m'as guidé. Gloire à toi, berger fidèle, tout le long tu m'as guidé.
Ceux qui lui étaient si chers, son Dieu de grâce lui a donné. Il réussit à terminer la révision de sa traduction de la Bible en bengali. Ce fut sa dernière œuvre avant sa mort, le 9 juin 1834. Son lieu de repos est à Serimpore, où il avait choisi de finir ses jours. Il avait voulu être enterré dans la même tombe que Charlotte, sa deuxième épouse. Là aussi était enterré Ward, qui l'avait précédé à la mort 11 ans auparavant. Marshman les rejoindrait 3 ans plus tard. Ces 3 hommes de Dieu formèrent une équipe forte et marchèrent dans une douce communion dans leur œuvre missionnaire. Avec leur famille, ils auraient tous pu vivre dans le confort et le luxe avec les fonds qu'ils touchaient des diverses sources de revenus qu'ils avaient. Mais ils ont choisi délibérément un style de vie très simple et minime, sans confort, leur permettant de maximiser leur part dans l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Le luxe qu'ils recherchaient était celui céleste, là où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Luc 12, 33. Juste pour vous donner une ordre de grandeur du sacrifice qui se faisait, son travail de professeur de langue à l'Université de Calcutta lui permettait de toucher 1200 livres par année, desquels il ne gardait que 50 livres pour vivre. Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Nous voici, proches de 200 ans après. Le monde n'est pas encore conquis. Il y a des millions encore qui n'ont pas entendu l'Évangile, qui n'ont pas même reçu la parole de Dieu. Il y a près d'une centaine de tribus, selon les estimés, qui n'ont même pas encore eu de contact avec la civilisation, alors encore moins avec la parole de Dieu. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Se lever quand c'est fini et simplement retourner à nos occupations? Ou allons-nous faire quelque chose? Qui va aller? Qu'attendons-nous pour envoyer quelqu'un à ces tribus qui n'ont jamais encore entendu la parole de Dieu? Qu'attendons-nous pour aller? Qu'attendons-nous?
Oh, la parole pour le monde, oui, la parole de Dieu. Oh, qui ira jusqu'au bout du monde pour la parole? Parole pour le monde, oui, pour ce monde perdu. Oh, qui paiera le plus grand des coûts pour le Seigneur Jésus? Oh, la parole pour le monde, oui, pour le monde entier. Pour ce il faut d'ici jusqu'à la croix et l'eau.